Les jeunes Radio Actifs, c'est ici et maintenant sur Radio Panique 105.4.
Bonjour et bienvenue dans Jeunes Radioactifs avec le soutien d'InfoJeunes Laeken. Bloquez votre agenda tous les quatrièmes mercredis du mois parce que c'est nous les Jeunes Radioactifs qui débarquons sur les ondes de Radio Panique. Jeunes Radioactifs, c'est la crème de la crème des émissions participatives. On traite de sujets sérieux comme l'école, le taf, les stages, la famille. Des thèmes qui nous touchent, mais pas de panique, on va essayer de ne pas être ennuyeux. On se retrouve tous les mois, souvent en live, et en bonus, on se lance dans des micro-trottoirs, des reportages et des interviews. Si vous avez entre 12 et 26 ans, vous êtes les bienvenus avec nous dans cette émission. On compte sur vous, contactez-nous au 02 421 71 30. Voilà, comme vous le savez, les élections sont prévues pour le 9 juin et le 13 octobre prochain. C'est pourquoi notre émission d'aujourd'hui sera entièrement dédiée à cet événement majeur. Sous le titre « Voter, savoir, comprendre les élections, leur enjeu et l'importance du vote », nous plongerons profondément dans l'univers complexe des élections, nous examinerons attentivement l'importance vitale de voter, les nuances des différents types d'élections, ainsi que l'impact considérable de nos choix de vote, sur nos vies et sur la société dans son ensemble. Pour discuter de tous ces aspects, nous serons accompagnés de Jean Faniel, du Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et nous sommes enchantés de t'avoir parmi nous aujourd'hui en tant qu'expert dans ce domaine. Nous avons également Ryan qui sera avec nous pour co-animer l'émission avec moi-même. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Voilà. Alors, Jean, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours et nous éclairer sur ce qu'est le CRISP ?
Donc le CRISP, c'est un centre de recherche qui est basé ici à Saint-Josse, hein, où nous nous trouvons pas très loin d'ici des studios de Radio Panique. Et c'est un centre qui existe depuis 1958. Et son objectif, c'est d'examiner la manière dont se prennent les décisions politiques. C'est-à-dire qu'on étudie, donc centre de recherche, les décisions, qui prend les décisions, dans quel contexte, sous l'effet de quelles pressions, de quels acteurs. Alors évidemment, il y a les partis politiques, mais il y a aussi des acteurs économiques, il y a des acteurs sociaux, patronaux, syndicaux, associatifs, les églises parfois aussi, qui poussent à prendre telle décision ou à ne pas prendre telle décision. Et nous, c'est un peu ça qu'on examine. Donc c'est vraiment la vie politique au sens très large, au sens sociopolitique. Je disais, c'est un centre de recherche, c'est aussi un centre d'information. Et donc, une bonne partie de notre métier consiste aussi à répondre à des interviews, là, comme on est en train de le faire maintenant, à participer à des formations, des séances d'information, etc., sur la vie politique dans toute sa diversité. C'est un centre qui est un centre indépendant, donc on n'est pas dépendant d'un parti politique ou d'une association quelconque. Et on a vraiment pour règle dans notre métier de toujours veiller à rester impartiaux. On n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça. Non, nous, notre but, c'est vraiment de comprendre et d'expliquer pourquoi on en est arrivé là et aussi de voir quels sont les changements qui sont à l'œuvre à certains moments.
Merci beaucoup Jean. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet juste après un morceau de Mickey 3D, Respire.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
Toujours à l'écoute sur Radio Panique pour l'émission des jeunes radioactifs. Savoir voter, comprendre les élections, leur enjeu et l'importance du vote. Bienvenue dans cette première partie où nous allons discuter de l'importance de voter. Ryan, je vais te laisser poser la première question à notre invité.
Alors pour commencer, on voudrait vous poser la question: pourquoi est-il crucial pour les citoyens de voter? Et peut-être si on peut parler brièvement de l'obligation de vote en Belgique et de son importance et de sa particularité par rapport aux autres pays.
Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas. Fais ce que tu veux. Oh non, pas des épinards! Pourquoi t'as fait des épinards? Mais ce matin, je t'ai demandé ce que tu voulais, tu m'as pas répondu. Ben, je trouve que les élections, c'est un peu la même chose. Vous avez tout à fait le droit de ne pas aller voter. Mais faudra pas vous étonner si on vous fait manger des épinards pendant 5 ans alors que vous n'aimez pas ça. Je trouve que c'est une image qui en dit long d'une certaine manière sur le fait que bien souvent on en est venu à considérer le vote, le fait de voter, de pouvoir voter, pas tellement comme un choix, pas tellement comme une liberté, pas tellement comme une opportunité, mais plutôt comme une contrainte, voire comme une corvée. Alors que, bah, on sait bien que l'histoire du droit de vote, elle est tout sauf simple. On voit bien à quel point dans certains pays, je pense au Congo, je pense à d'autres pays, où organiser les élections est toujours quelque chose de très compliqué, très difficile, et où on voit des gens qui se pressent pour aller voter, à quel point ils voient que c'est important de pouvoir choisir, de pouvoir faire des choix de la manière la plus libre possible. Et en Belgique, et plus largement en Europe occidentale, c'est plutôt devenu cette espèce de corvée. Et donc là, je pense que ben, parfois, on oublie cela et que l'on oublie aussi que bah, si vous ne votez pas, si vous ne faites pas des choix qui sont fondamentaux parce que ce sont des choix vraiment de société, de vision de société différente, bah, vous avez le droit. Mais d'autres feront des choix à votre place. Il ne faut pas vous étonner alors si vous devez manger des épinards pendant 5 ans alors que vous n'aimez pas ça. Et en 1899, donc à la fin du 19e siècle, en 1893, pardon, vers la fin du 19e siècle, on a décidé de rendre le vote obligatoire en Belgique, alors qu'il ne l'était pas jusque-là. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de noyer, entre guillemets, les votes les plus radicaux. Mais c'était quand même aussi un moment important parce que ça a amené tous les gens qui avaient le droit de vote, et ce n'était que 20% de la population, hein, c'était encore très restrictif à l'époque, à faire ce choix, à devoir se prononcer, donc aussi à avoir l'opportunité de se prononcer. Et jusqu'ici, cette obligation de vote, elle a été maintenue en Belgique. Elle n'existe pas dans beaucoup d'États, je crois au Luxembourg, en Grèce, mais elle n'est pas tout à fait respectée, peut-être en Bulgarie de mémoire. En Belgique, on a décidé de la maintenir, sauf à partir du 13 octobre, en Flandre, le vote ne sera plus obligatoire pour les élections communales et provinciales. Donc on pourrait bien voir les taux de participation baisser. Alors attention, aujourd'hui, les taux de participation sont déjà plus à 100%. On est loin de là. En 2019, pardon, il y a 5 ans, à la Chambre, il y a 17,5% des électeurs inscrits qui soit ne sont pas allés voter, soit ont voté blanc, soit ont voté nul. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, peut-être qu'ils étaient morts dans l'intervalle entre le moment où on a arrêté les listes électorales et le moment où il fallait aller voter. Il y en a peut-être qui ont cru bien faire et en fait, leur vote n'était pas correct parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas possible. Par exemple, on ne peut pas voter pour deux listes sur un même bulletin de vote. Donc, si vous faites ça, votre bulletin est annulé. Ben, vous pouvez très bien sortir de l'isoloir en vous disant bah, « si, moi, j'ai voté et ne pas savoir qu'en fait votre vote était nul. » Donc 17,5%, ça ne veut pas dire 17,5% de gens qui ne veulent pas voter. Mais il y en a là-dedans qui décident que ça ne les intéresse pas ou qui ne voient pas quoi faire, etc. C'est encore un pourcentage très très important par rapport à ce qu'on voit ailleurs. En Slovaquie, le même jour pour les élections européennes, c'était 22% des gens qui allaient voter. Ce n'était pas 10% des gens qui n'y allaient pas, c'est 22% qui y allaient voter, donc c'était très très faible. Et ce que les études montrent, bah c'est que, en général, quand le vote est facultatif, quand il n'est pas obligatoire, eh bien là, ce sont les personnes avec le niveau de diplôme le moins élevé, les personnes en situation économique ou financière les plus précaires, etc., qui ne vont pas voter. Et donc ça a aussi des incidences sur la représentation, sur la manière dont ces personnes sont considérées après, pendant 5 ans, 6 ans, dans les débats politiques et dans les prises de décision. Donc, beaucoup de gens en Belgique restent quand même assez attachés à cette obligation de vote, même si, voilà, le gouvernement flamand a décidé pour les élections communales et provinciales d'octobre prochain de supprimer cette obligation de vote.
Justement, vous le disiez, ici j'avais une question, en quoi le vote peut-il influencer les politiques qui nous affectent? Vous avez commencé un peu à répondre à la question, du coup, par rapport aux classes sociales qui n'iraient pas voter directement, ça aurait un impact. Donc, si vous avez développé un peu plus vis-à-vis de ça.
Mais donc, plus généralement, le vote, c'est vraiment un moment de choix. C'est un moment crucial, c'est un moment où on détermine ce que l'on va privilégier comme situation, comme position dans les années qui suivent. Quand vous regardez en Belgique, il y a quand même un certain nombre de partis différents, parfois très très différents, qui se présentent, et cela, quelle que soit la circonscription, que l'on vote à Bruxelles, que l'on vote dans la province de Luxembourg, ou dans la province de Flandre-Occidentale, par exemple, on a en général un choix relativement large, avec des idées qui partent vraiment dans différentes directions. Et donc, selon les sujets qui vous préoccupent, qui vous intéressent le plus, selon vos propres choix, vos propres positionnements, eh bien, je pense que vous pouvez trouver des partis qui vont davantage être proches de vos soucis, de vos volontés, de vos désirs pour les 5 années qui viennent, si on prend le cas des élections régionales ou européennes ou bien des élections au niveau fédéral, la Chambre des représentants. Et donc, on est dans une situation où vraiment on a des visions différentes qui s'opposent. Quand vous regardez les débats en radio, en télévision, quand vous lisez les programmes des partis, vous voyez vraiment des propositions qui sont très différentes, que ce soit en matière, de migration, en matière d'environnement, en matière économique, en matière d'enseignement. On va voir sur toute une série de thématiques des programmes qui sont parfois extrêmement différents. Et on voit aussi que, en fonction des rapports de force électoraux qui vont sortir des urnes, qui vont sortir de ces votes, on va avoir des gouvernements qui vont se mettre en place, qui auront peut-être une coloration très différente. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a eu en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, des gouvernements à la composition assez différente. Plutôt à droite en Flandre, avec la NVA, le CD&V, l'OpenVLD qui étaient au pouvoir, des partis de droite. Plutôt au centre ou au centre-gauche, à Bruxelles et en Wallonie, avec le Parti socialiste, les écologistes, le mouvement réformateur. Donc on est avec là des partis de gauche, un parti de droite, ça donne des politiques peut-être plus centriste, mais moins marqué à droite qu'en Flandre. Sur les questions environnementales, par exemple, on a vraiment vu des différences très fortes, avec une ministre flamande, Zwaldemir, qui renaclait en quelque sorte, qui ne voulait pas trop atteindre les objectifs qui sont assignés à la Belgique en termes de réduction des émanations de CO2, par exemple, ou des gaz à effet de serre plus largement, alors qu'à Bruxelles et en Wallonie, on avait des gouvernements qui essayaient d'aller plus loin. Et même quand des citoyens ont saisi la justice, c'est ce qu'on a appelé l'affaire climat, pour essayer de forcer l'autorité fédérale, donc le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux à aller plus loin dans leurs ambitions en faveur du climat, eh bien, on a vu que la justice a reconnu qu'il y avait des différences. La Wallonie n'a pas été condamnée, alors que les autres, la région flamande, la région bruxelloise et l'autorité fédérale, ont été condamnés en disant bah, « vous ne faites pas assez, vous n'en faites pas assez pour le climat ». Et donc on voit vraiment qu'avec des rapports de force qui sont différents sur le plan électoral, avec des gouvernements qui sont différents, on a des politiques qui peuvent être différentes. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas sur tous les sujets, mais quand même, on a parfois des différences qui peuvent être fondamentales.
Il y a une idée aussi préconçue qui circule beaucoup et de plus en plus, je pense, dans la population. C'est pourquoi voter si finalement tous les politiciens sont pareils? Que répondre à ça?
Alors, je viens déjà de le dire, je pense que tous les hommes et femmes politiques ne sont pas les mêmes, ne portent pas les mêmes valeurs, ne défendent pas les mêmes intérêts non plus, et que donc en cela, il y a vraiment des différences à faire. Après, en termes de comportement, la manière dont ils se comportent dans des débats, la manière dont ils s'interrompent, etc., dont ils essayent de parler plus fort que l'autre, c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'ils sont un peu les mêmes et ça peut avoir un caractère dérangeant. Mais dans des débats qui sont bien menés, où on parvient à écouter les points de vue des uns et des autres, on voit vraiment des différences qui apparaissent. Après, on a aussi eu des affaires, il ne faut pas du tout s'en cacher, qui étaient soit à la limite, soit qui étaient franchement, qui relevaient de comportements qui étaient illégaux, quand on tape dans la caisse ou quand on se comporte de manière pas très reluisante, pas très morale, ça n'est pas normal, il faut le dire. La presse notamment a révélé toute une série de scandales. En général, les partis politiques essaient quand même d'écarter les personnes si elles se sont vraiment rendues coupables de certaines choses, ou bien de faire évoluer les règles. Si quelque chose est un peu immoral mais n'était pas interdit, on va essayer peut-être de créer des réglementations qui empêchent ce genre de comportement qui provoque un peu des scandales finalement. Et cela, je dirais, on ne doit pas le laisser passer, c'est clair. Après, clairement, tous les hommes et femmes politiques ne sont pas non plus les mêmes, ne se comportent pas de la même manière. On ne voit pas des affaires qui secouent tout le monde non plus. Donc là aussi, je crois qu'il faut faire des différences. Et puis, il y a évidemment un élément qui est très fort en Belgique, c'est qu'aucun parti n'obtient la majorité absolue lors des élections, excepté dans certaines communes, lors des élections communales. Et donc, en général, ce qu'il faut, c'est que plusieurs partis, avec des idées différentes, avec des intérêts différents, s'associent, se coalisent, forment une coalition pour gouverner ensemble. Et en Belgique, ce qui est clair aussi, c'est devenu de plus en plus clair dans les dernières années, c'est que parfois il faut beaucoup de partis pour arriver à obtenir une majorité et donc avoir une coalition. Et donc ça veut dire que les uns et les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin, ils doivent faire des compromis. Ok, moi je n'obtiendrai pas ça, mais alors en échange, je veux absolument qu'on réalise ceci. Et donc on a parfois un peu l'impression qu'on n'a pas des projets d'eau chaude ou d'eau froide, on a des projets d'eau tiède un peu chaude ou d'eau tiède un peu froide. Et ça, évidemment, ce sont des choses que les citoyens ont parfois un peu de mal à accepter, à admettre. Et en même temps, ce sont eux qui ont voté, ce sont eux qui ont distribué les cartes. Et donc, c'est aussi la conséquence de nos choix électoraux, de nos choix à toutes et tous, finalement. Mais c'est vrai que ça n'est pas toujours ce qu'on voudrait, ce à quoi on voudrait avancer. Après, c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple si j'étais le seul à voter, parce qu'au moins, ce seraient mes idées qui passeraient. Mais on appelle ça une dictature, c'est pas la même chose.
En effet. Au niveau du coup des élections ici, on a les élections en juin, donc on votera pour le fédéral, les européennes et les régions, si je ne dis pas de bêtises.
Les régions et même les communautés, puisque en Flandre et du côté germanophone, ce sont même des parlements de communautés. Oui.
Voilà, et en octobre pour les communales et
les provinciales.
Les provinciales.
Mais ça ne concerne que la Flandre et la Wallonie, ça ne concerne pas Bruxelles.
Voilà, ça ne concerne pas Bruxelles. Pour les communales, justement, quelle est l'importance de voter pour les communales par rapport aux élections fédérales, que la plupart du temps, c'est ce qui est surtout mis en avant?
En fait, chaque niveau de pouvoir a un effet sur notre vie quotidienne. J'ai évoqué les communautés, par exemple, la communauté flamande, la communauté germanophone, ou bien celle que nous connaissons le mieux, la communauté française, qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles. On n'élit pas directement le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont des députés régionaux bruxellois et des députés régionaux wallons qui sont membres du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais le principe est le même. Les décisions qu'ils vont prendre vont avoir un impact sur l'enseignement, sur l'accueil de la petite enfance, sur l'enseignement supérieur, les universités, les hautes écoles, sur toute une série de questions qui sont vraiment en lien très fort avec ce que nous vivons chaque jour. Les élections régionales, le Parlement régional, c'est notamment le Parlement régional qui va décider de ce qu'on fait en termes de collecte des déchets, en termes d'aménagement du territoire, en matière de politique de logement, de protection de l'eau, etc. Tout ça, ça a un impact au quotidien sur nos vies. L'autorité fédérale, ce sont des matières telles que la SNCB, les transports en commun par rail, ou bien l'approvisionnement en énergie, d'où vient notre électricité, d'où vient notre gaz par exemple, ou encore toute une série d'autres matières, la justice, la sécurité sociale, les pensions, les soins de santé, les allocations de chômage, etc. Et puis, au niveau des communes et des provinces, on retrouve aussi toute une série de décisions qui peuvent être prises et qui vont vraiment marquer nos vies au quotidien. Soit parce que vous allez dans une école communale, c'est une école qui est organisée par la commune, et donc en fonction de la gratuité des crèches à midi, des garderies pardon, à midi ou pas, vous allez avoir des choix qui vont être différents. En fonction de la manière dont on va aménager l'espace aussi, là on va refaire les trottoirs, ici on va mettre des cases vitesse, etc., etc. Tout ça, ce sont des prérogatives que l'on retrouve au niveau des communes, ça va être dans des tas de directions différentes, mais bien souvent, ça va avoir un effet très palpable, finalement, sur nos vies quotidiennes. Il suffit de sortir dans la rue et de déjà se rendre compte que l'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qui compte pour chacune et chacun.
Souvent, finalement, beaucoup plus impactant qu'au niveau fédéral. En tout cas, directement, on le voit plus facilement.
On le voit plus facilement,
c'est ça. Au jour le jour.
Et je ne dirais pas qu'il y en a un qui est vraiment plus important que l'autre, mais en termes de perception, c'est vrai que ça va être différent.
D'accord. Merci.
J'aimerais qu'on rebondisse un petit peu sur ce que vous avez dit justement tantôt par rapport aux coalitions. Ça pose une question, je pense, pour tous les citoyens et citoyennes sur comment est-ce qu'on peut s'assurer que mes valeurs sont représentées par les candidats que je choisis de soutenir. Parce qu'on va voter pour des candidats qui eux-mêmes risquent de coaliser avec des gens avec lesquels on n'est pas du tout en accord. Quelle importance est-ce que ça peut avoir? Est-ce que ça dilue peut-être un peu les enjeux ou les responsabilités aussi d'un gouvernement?
Alors c'est vrai que jusqu'ici, moi j'ai surtout parlé des partis politiques. Je n'ai pas encore tellement parlé des personnes, des individualités. Même si, je l'ai dit, tous ne sont pas les mêmes, ne portent pas nécessairement tout à fait les mêmes valeurs ou ne vont pas développer les mêmes arguments, ne vont pas s'attarder aux mêmes choses. Dans un parlement régional, par exemple, c'est vrai que vous allez avoir des députés qui vont se spécialiser dans certaines matières. Certains qui vont plutôt être attentif à l'aménagement du territoire, d'autres plutôt à la protection de l'eau ou des forêts, ou que sais-je encore. Donc c'est vrai qu'on va avoir un peu une espèce de spécialisation de chaque député qui ne va pas nécessairement pouvoir suivre toutes les matières qui vont être traitées au sein du Parlement. Et donc c'est intéressant, je pense, avant les élections, de se renseigner aussi, non seulement sur les personnes, sur les partis politiques, sur les programmes des listes qui sont en compétition, mais aussi sur les personnes, les personnalités, quel est leur parcours, quels sont les dossiers qu'elles disent vouloir porter en particulier. Et éventuellement, essayer aussi de les rencontrer, de discuter avec elles, soit parce qu'elles font une campagne, je ne sais pas moi, sur un marché ou à d'autres événements, soit parce qu'elles participent à une conférence débat près de chez vous éventuellement. Et donc essayer vraiment d'aller au contact, de poser des questions, de voir si cette personne correspond plus ou moins à ce que vous souhaitez défendre. Mais souvent, on voit les élections comme étant quelque chose qui se passe une fois tous les X temps, 5 ans ou bien 6 ans pour les élections communales. Eh bien, en même temps, il faut bien se dire que la démocratie, elle ne va pas s'arrêter le 10 juin, le lendemain des élections ou le 14 octobre. Au contraire, la démocratie, c'est quand même quelque chose de permanent, finalement. Et ce n'est pas parce que nous avons élu nos représentantes et nos représentants qu'on doit faire comme si on n'avait plus rien à dire, que eux ne doivent pas non plus faire, comme si nous n'existions plus, évidemment. On parle parfois d'une méfiance de la population à l'égard des élus et des élus. Parfois, on a l'impression que ce sont les élus et les élus qui se méfient de la population. Et je crois justement que cette connexion, elle doit pouvoir se faire tout le temps, pas seulement au moment des élections. Et donc, rester en contact, interpeller ces élus, je crois que c'est quelque chose qui est important, justement pour essayer de faire en sorte que les idées que l'on défend, les valeurs que l'on porte ou les intérêts que l'on veut voir mis en avant puissent vraiment être défendus par ces personnes qui seront choisies.
Beaucoup de gens s'abstiennent aussi de voter parce qu'ils pensent qu'une voix ne changera rien et que donc voter est inutile. Ils ont l'impression que leur vote ne sera pas décisif. Ont-ils raison? Et qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur rétorquer?
Il y a un peu plus de 8 millions d'électeurs. Donc ce serait vous mentir de dire « oui, c'est vraiment ta voix qui va faire tout changer ». C'est vrai. Quand on dit chaque voix compte, on ne peut pas dire que chaque voix compte de manière ultra déterminante au point que la Terre va s'arrêter de tourner si vous n'allez pas voter ou si vous ne votez pas comme ceci ou comme cela. Mais en revanche, si chacun se dit « oui, mais donc ma voix ne compte pas », ce n'est pas 8 millions d'électeurs qu'il y aura, ce sera peut-être 2000 ou 500. Et donc, évidemment, moins il y a de gens qui vont voter, plus les voix vont compter. C'est ce que je disais tout à l'heure, si j'étais seul à aller voter, ce serait plus facile, au moins mes idées seraient représentées. Bon, mais ce ne serait pas très démocratique non plus. Donc, on est dans une situation où on peut considérer que chaque voix compte, mais que chaque voix compte un petit peu. Mais que quand il y a des gros déplacements de voix, et on en voit à quasiment chaque élection, ça finit par compter beaucoup. Et c'est aussi ma petite voix qui va compter. Évidemment, je peux me retrouver à soutenir un parti qui ne va avoir que quelques voix et qui n'aura peut-être même pas d'élus. Je peux aussi me retrouver dans un parti qui va être le grand vainqueur des élections. Donc, chacun, en fonction de son choix aussi, va pouvoir faire porter, va pouvoir faire peser sa voix dans un sens ou dans un autre, d'une manière ou d'une autre.
On a déjà un peu parlé tout à l'heure de la différence avec les fédérales, les communales. On a surtout parlé des communales. Quelle est la différence entre les différentes élections qui vont avoir lieu, que ce soit en juin ou en octobre? Essayez d'un peu détailler leur importance et sur quoi elles vont influer directement.
Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a différentes matières, il y a différentes compétences qui sont gérées au niveau de tel et tel niveau de pouvoir. J'ai dit un peu, les compétences des communautés, les compétences des régions, les compétences de l'autorité fédérale, et puis les communes qui s'occupent, elles, de beaucoup de choses qui ont trait à la vie, finalement, à la vie quotidienne des habitantes et des habitants de la commune. On est donc dans des élections qui vont être différentes par la nature des compétences qui vont être exercées. Maintenant, en même temps, on voit bien aussi qu'il y a des enjeux de société. J'en ai mentionné différents. J'ai évoqué l'environnement, j'ai évoqué l'économie, la justice, etc. On va voir des enjeux qui vont finalement toucher beaucoup de niveaux de pouvoir. Parce qu'en matière économique, une commune peut avoir un effet, un petit effet, mais elle peut quand même avoir un effet. La région va mener une politique économique de développement des entreprises, qu'elle va subsidier ou pas, comme ceci, plutôt dans tel sens. Mais environnement, et emploi, économie, environnement aussi. Si vous décidez plutôt de développer des industries qui sont assez polluantes ou bien au contraire qui vont plutôt favoriser, je ne sais pas moi, l'économie circulaire, la réutilisation des déchets, des matériaux qui ne sont plus utilisés, etc. Ça va être des politiques qui vont être quand même assez différentes et qui peuvent mener à des résultats tout à fait différents. En matière d'environnement, en matière d'économie, l'autorité fédérale aussi a des compétences. Donc on voit que ce sont des compétences qui peuvent être finalement exercées par un peu chacun des niveaux de pouvoir. Alors évidemment, dans des directions qui peuvent être différentes, puisque ce sont des niveaux de pouvoir différents, mais éventuellement aussi, si les résultats aux élections sont plus ou moins proches, sont relativement proches entre les différents niveaux de pouvoir, on peut alors avoir des politiques qui sont plus cohérentes entre la commune, la région, le niveau fédéral, par exemple. Sans oublier, évidemment, le niveau européen, qui est aussi un niveau extrêmement important pour des prises de décision. Donc, on est dans une situation, je dirais, où on va voir des différences entre ces élections, aussi, donc non seulement du point de vue du contenu des politiques, mais aussi évidemment en termes de personnes, puisque une personne ne va pas pouvoir être à la fois députée à la région et députée à la Chambre des représentants au niveau fédéral. On va avoir des personnes différentes qui vont mener des politiques un peu différentes. Il faut bien voir aussi que les assemblées ne sont pas les mêmes. Le conseil communal de Saint-Just-en-Naude où nous nous trouvons va avoir une composition très différente de ce que l'on va voir au niveau du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ou bien au niveau du Parlement fédéral où vous allez retrouver des élus qui viennent de Wallonie, des élus qui viennent de Flandre, des élus qui viennent de Bruxelles. Donc tout cela, évidemment, ça colore les choses différemment, ça amène à avoir des politiques qui vont être différentes. Et puis, on a aussi des règles électorales qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si je prends un exemple, à Bruxelles, les candidats sur les listes doivent être nécessairement, alternativement, un homme, une femme, un homme, etc. Alors qu'en Flandre, par exemple, cette règle-là n'existe pas. Donc vous devez avoir aux deux premières places un homme et une femme, ou une femme et un homme, mais après, vous devez avoir le même nombre d'hommes que de femmes, mais dans n'importe quel ordre. Donc là, évidemment, ça va être des règles un peu différentes qui vont peut-être avoir des résultats différents. En tout cas, les études que mes collègues du CRISP ont déjà menées montrent qu'en Wallonie et à Bruxelles, où on a mis en œuvre cette tirette, comme on l'appelle, hein, comme une tirette d'un manteau, hein, c'est alternativement un homme, une femme, et un homme, une femme, etc., eh bien, on voit que ça a un effet. Ça a un effet, il y a plus de femmes qui sont élues, alors que sinon, la proportion de femmes qui siègent dans les assemblées est moins élevée en communauté germanophone, où ils n'ont pas cette règle, en Flandre, où ils n'ont pas cette règle, ou à la Chambre, où on n'a pas cette règle, que l'on soit du côté francophone ou néerlandophone d'ailleurs. Donc, on voit que parfois aussi, ces règles électorales, elles ont un effet sur qui est élu et qui ne l'est pas. Et peut-être aussi, il faudrait pouvoir prolonger ça par d'autres études sur le type de politique qui est menée, quelles sont les politiques qui vont être observées dans les années suivantes.
Cette année, il y aura un petit changement au mois de juin pour les élections européennes. En effet, les jeunes, à partir de 16 ans, pourront voter. On y reviendra, mais du coup, quels sont les enjeux spécifiques de ces élections européennes ?
Alors, les enjeux des élections européennes sont très nombreux, sont très importants aussi. Parce que quand on regarde de quoi s'occupe l'Union européenne, eh bien, elle s'occupe de beaucoup de choses en réalité. Il y a des domaines de politique qui sont un peu réservés au niveau européen. On a beaucoup parlé de l'agriculture, par exemple. On sait que la politique agricole commune, la PAC, est un aspect des politiques européennes qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de moyens financiers qui vont dans la PAC. Et donc, ça a aussi un effet sur le type d'agriculture qui est menée, sur les règles auxquelles sont soumis les agriculteurs. Et on sait que ça a suscité beaucoup de mécontentement aussi dans certains secteurs de l'agriculture ces derniers temps. On a des politiques qui sont aussi des politiques au niveau de la politique internationale. Quelles sont les relations que l'on entretient ? Avec l'Ukraine, avec la Russie, avec Israël, avec les Palestiniens, etc., etc. Ou avec d'autres parties du monde. On a des questions qui touchent aux protections individuelles. par exemple, est entré en vigueur il y a quelques années ce qu'on appelle le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Eh bien, ce règlement, c'est notamment ce qui fait qu'on essaie de protéger davantage les données des utilisateurs, notamment sur les sites internet, en surfant sur les réseaux sociaux, etc. etc. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on vous demande votre consentement pour mettre des cookies sur votre ordinateur ou votre GSM quand vous surfez. Et vous avez le droit de refuser aussi, en vertu de ce RGPD. Donc, on voit que la politique européenne, elle part dans des directions extrêmement différentes. Cette politique européenne, elle est faite à la fois au Parlement européen, et c'est le Parlement européen, ce sont les députés européens que nous allons élire le 9 juin, dans les 27 États membres de l'Union européenne. Donc là, ce ne sont pas que les électrices et les électeurs belges, évidemment, qui sont concernés. Et ces députés européens vont être amenés à se prononcer sur toute une série de textes dans les 5 ans qui viennent. Mais les textes, ils sont plutôt préparés soit par la Commission européenne, qui a son siège à Bruxelles, soit par les représentants des gouvernements des différents États membres de l'Union européenne. Donc, par exemple, les ministres de l'Agriculture vont discuter de la politique agricole, les ministres des Finances de la politique budgétaire, par exemple. Et puis, à un moment donné, il faut essayer de trouver un compromis, un accord entre le Parlement européen, la Commission européenne et les représentants, donc le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, avec les chefs d'État et de gouvernement ou avec les ministres dans les différentes matières. Donc ce sont des politiques qui sont extrêmement importantes, qui vont concerner l'ensemble des Européens, qui vont aussi être déterminées par l'ensemble des députés européens, donc ceux que nous allons tous ensemble élire. Mais je l'ai dit, la fois dernière, en Slovaquie, les députés européens qui viennent de Slovaquie, ils ont été élus par 22% de la population. Donc ça, ce sont aussi évidemment des choses qui invitent à réfléchir sur la qualité, la légitimité des représentants au niveau européen.
On a compris quels étaient les différents enjeux des futures élections européennes à venir. Il semblerait que les modalités du scrutin ont évolué. Désormais, les jeunes à partir de 16 ans pourront voter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce changement et aussi peut-être quels sont les effets attendus, si vous en avez peut-être déjà fait un sujet d'étude au CRISP ou pas encore?
Oui. Alors, en fait, il faut bien il faut bien voir que ce changement, il intervient en Belgique. Il intervient en Belgique, il intervient également en Allemagne, parce que en 2015, on a décidé au niveau européen qu'il fallait essayer de favoriser la participation des jeunes à partir de 16 ans et le faire un peu partout de la même manière. Bon, résultat des courses, on est quasiment 10 ans plus tard et finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont bougé. L'Autriche avait déjà abaissé à 16 ans, la Grèce a abaissé à 17 ans et cette fois-ci, l'Allemagne et la Belgique ont pris aussi la décision d'abaisser à 16 ans. Donc, on est dans une situation où on va avoir des électeurs qui généralement auront plutôt 18 ans dans la plupart des pays, mais dans quelques pays, dont la Belgique, ce sera 16 ans. En Belgique, ça n'a pas été une décision qui a été prise facilement. Et la Cour constitutionnelle a déjà dû intervenir à 2 reprises parce qu'elle estimait que les règles qui avaient été déterminées n'étaient pas tout à fait correctes, n'étaient pas tout à fait constitutionnelles, précisément. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le 9 juin, les jeunes de 16 et de 17 ans qui sont de nationalité belge vont être convoqués pour voter aux élections européennes. Et les jeunes de 16 et 17 ans qui vivent en Belgique, qui sont enregistrés en Belgique, mais qui ont une nationalité d'un des 26 autres États membres, pourront voter, mais pour ça, il faut qu'ils se soient inscrits sur des listes au préalable. Et là, malheureusement, les inscriptions sont clôturées depuis le 31 mars, donc si vous ne l'avez pas fait, hélas, c'est trop tard, il faudra penser à le faire pour la fois prochaine. À partir du moment où on est inscrit, donc soit parce qu'on est belge, soit parce qu'on a fait la démarche, on est obligé d'aller voter. Mais ce que le gouvernement a annoncé, c'est que si les 16 et 17 ans décidaient de ne pas aller voter, ils ne seraient pas poursuivis. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur signal à envoyer, de dire « attention, le vote est obligatoire ». Bon, enfin, si vous ne le faites pas, bon, de toute façon, ce n'est pas grave, il ne se passera rien. C'est un message quand même un petit peu contradictoire. En même temps, il faut quand même reconnaître que l'Union européenne a pris une drôle de décision, puisqu'on essaie de favoriser la citoyenneté des jeunes, et en même temps, on met les élections le 9 juin. je crois qu'il n'y a pas qu'en Belgique que le 9 juin, c'est quand même une date où, avec les examens, bah, beaucoup de jeunes vont avoir autre chose en tête ou vont être éloignés de chez eux et auront du mal à aller voter concrètement. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a peut-être des incohérences et c'est sans doute dommage parce qu'il faut bien voir qu'au-delà des jeunes de 16 et 17 ans, on a des gens qui ont 18, 19, 20, 21, 22 ans qui n'ont toujours pas voté parce que ça fait 5 ans que l'on n'a plus eu d'élection en Belgique. C'est la période la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale sans élection. Et donc pendant 5 ans, imaginons quelqu'un qui a eu ses 18 ans le 27 mai 2019, donc le lendemain des dernières élections, bah, il aura dû attendre 5 ans et même encore un peu plus puisqu'il aura son anniversaire le 27 mai 2024. Et il aura donc 23 ans dans ce cas-là quand on arrivera le 9 juin et qu'il va enfin pouvoir voter. Donc ça fait quand même un paquet de nouveaux électeurs, en particulier au Parlement européen, mais pas seulement. Et là, on sent bien que les partis politiques essaient d'aller chercher ces voix. Et donc, en termes de propositions, en termes de comportement, essayer d'avoir des jeunes sur ces listes électorales pour attirer des jeunes, en termes de communication politique sur les réseaux sociaux, etc., on voit qu'il y a quand même un travail en direction des jeunes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les jeunes sont au centre de la campagne électorale en termes non pas d'enjeux, mais en termes de thématiques? Est-ce que toute la campagne électorale va être orientée sur l'avenir des jeunes, sur le bien-être des jeunes, etc.? Moi, je n'ai pas tellement l'impression. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression que certains partis politiques, peut-être la plupart des partis politiques, envisagent les jeunes surtout comme un enjeu à capter, mais peut-être pas encore suffisamment comme une thématique, finalement, et qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes. Il y a des choses dans tous les programmes, hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire non plus, mais là, il y a peut-être encore un espace aussi pour les jeunes, pour se manifester. De ce point de vue-là, des organisations comme InfoJeunes, comme d'autres, les médias font aussi beaucoup de choses pour essayer d'intéresser les jeunes, pour expliquer, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici aussi, hein, autour de ce micro, pour que finalement les jeunes aussi puissent aller voter en connaissance de cause.
Alors justement, les jeunes à partir de 16 ans vont voter, vous l'avez dit, seulement pour les élections européennes, l'âge reste fixé à 18 ans. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'un changement pourrait advenir dans les prochaines années pour les élections nationales également?
C'est sans doute trop tôt pour le dire. On peut se dire aussi que le vote des jeunes de 16 et 17 ans aux élections européennes n'aura pas un impact gigantesque dans la mesure où bon, les jeunes de 16 et 17 ans, ça ne fait pas non plus des centaines de milliers de personnes. Donc, ce n'est pas à eux seuls qu'ils vont inverser le résultat des élections. Donc, peut-être que ça ouvrirait la voie pour qu'on abaisse l'âge de 18 ans, qui est l'âge en général pour les autres élections, comme vous l'avez rappelé, qu'on l'abaisse à 16 ans pour d'autres élections. Jusqu'ici, je n'ai pas vu que c'était vraiment une volonté. Mais peut-être que dans le futur, on pourrait imaginer que ça soit le cas.
Quels sont les défis auxquels les démocraties sont confrontées lors des élections, vu qu'on voit quand même un peu partout en Europe, et même chez nous en France, la montée des extrêmes? Donc voilà, quels sont les défis que ces démocraties vont rencontrer?
Alors, toutes les démocraties ne sont pas soumises aux mêmes problèmes, ou en tout cas avec la même acuité, si j'ose dire, avec la même vigueur. Parce que, on voit bien quand on suit un peu la campagne électorale aux États-Unis, par exemple, qu'on a une société qui est de plus en plus divisée, de plus en plus déchirée. C'était déjà un peu le cas sous Barack Obama, ça a été franchement le cas sous Donald Trump. Et justement, avec le retour possible de Donald Trump au pouvoir, on se dit que les choses pourraient être encore plus polarisées. Mais la campagne électorale va vraiment déjà être très très tendue, on le voit déjà maintenant, alors que ce sont des élections qui n'interviendront encore qu'au mois de novembre. Donc on est dans une situation où on voit que les démocraties sont sous pression. On voit aussi, et ça ce n'est pas propre aux États-Unis, que la manière dont les informations circulent, notamment sur les réseaux sociaux, est devenue de plus en plus problématique à certains égards, puisqu'on est un peu enfermé dans des bulles, on lit surtout ce qui renforce l'avis que l'on a déjà, on a tendance à zapper, donc on voit des vidéos explicatives, que ce soit d'InfoJeunes, que ce soit de la RTBF, que ce soit d'autres, qui sont des vidéos que je trouve en général assez bien faites, mais qui sont obligés d'aller vers des formats qui sont de plus en plus courts parce qu'on a l'impression que les gens, et ça ne concerne pas que les jeunes d'ailleurs, veulent aller de plus en plus vite pour consommer, comme on dit, de l'information. Et donc, s'informer sur la manière dont les élections se passent, sur l'importance des élections, etc., on voit bien que ce sont des processus qui ont changé avec le temps. Et ça met la démocratie quand même aussi sous tension. Notamment parce que les partis politiques, du coup, essaient de s'adapter. Et donc, on est de plus en plus dans une culture de la petite phrase. Or, moi, vous l'avez peut-être remarqué depuis qu'on a débuté cette conversation, c'est vrai que je trouve qu'il faut pouvoir développer, il faut pouvoir prendre le temps d'avoir des réponses qui ne fassent pas juste 5 ou 10 secondes. Parce qu'il faut pouvoir expliquer avec des nuances, etc. Et donc, sans ces nuances, de manière beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe, voire parfois très, très offensive, on s'aperçoit que les partis politiques sont aussi dans des situations de mise sous tension et le conflit devient de plus en plus fort. Alors que la démocratie, c'est aussi une façon d'essayer de gérer les conflits de manière pacifique, sans se taper sur la figure. Et puis, évidemment, on a des idéologies qui sont développées et qui prennent de la vigueur, donc des visions du monde qui sont favorisées par cette évolution de l'information, par cette évolution des réseaux sociaux, etc. Et de ce point de vue-là, par exemple, c'est vrai qu'en Belgique, un parti comme le parti d'extrême droite qui est le Vlaams Belang, ou du côté francophone, un autre parti d'extrême droite, le parti chez nous, sont vraiment des partis qui ont su utiliser les réseaux sociaux pour essayer de capter un maximum de gens. Et donc, qui ne vont pas nécessairement dire tout à fait le fond de leur pensée, qui ne vont pas dire nous, on estime que les gens sont tout à fait inégaux, qu'une femme, ça n'est pas l'équivalent d'un homme, un noir, ça n'est pas l'équivalent d'un blanc, etc. En général, des choses qu'ils pensent profondément, mais qu'ils ne vont pas mettre en avant, évidemment, de manière aussi claire. Ils ne vont pas dire, nous, on estime qu'il y a trop de musulmans dans le pays, et on estime qu'il ne faut pas qu'ils puissent égorger des animaux quand c'est la fête de l'Aïd. Non, ils vont dire, nous sommes pour la protection du bien-être animal. Ah oui, mais en fait, le bien-être animal, il faut comprendre que ça fait référence justement à cet abattage, par exemple. Ce ne sont pas seulement les chiens et les chats, hein, c'est aussi les agneaux, bien entendu, que l'on vise, par exemple. Ou bien, de manière plus perfide, en quelque sorte, ils vont mettre l'accent sur la nécessité de préserver l'activité des éleveurs, des agriculteurs, notamment les agriculteurs qui élèvent des porcs. Bah oui, mais là aussi, on a bien compris où ils veulent en venir, évidemment, hein, en termes religieux, en termes de discrimination, on comprend bien ce qu'il y a derrière. Et donc, évidemment, ce sont des partis qui, petit à petit, prospèrent aussi, qui parviennent justement à monter en puissance et qui, parfois, rencontrent des campagnes de la part de mouvements associatifs, d'organisations syndicales, etc., pour essayer de démasquer, en quelque sorte, leur discours et essayer de le contrecarrer. Mais ça n'est pas toujours facile.
Justement, on va parler un peu de comment informer les électeurs. J'avais une question là-dessus. Quels seraient les outils disponibles pour les électeurs pour comprendre tous ces enjeux politiques, en dehors de cette émission, bien entendu?
Alors, je dirais, justement, une des missions, une des tâches du CRISP, le centre dans lequel je travaille, c'est justement d'apporter des éléments de recherche, de connaissances et d'information. Et donc, nous, on le fait à travers des conférences, des débats, mes collègues et moi. C'est vrai que, particulièrement ces jours-ci, on sillonne un peu Bruxelles et la Wallonie pour participer à ce genre d'activité. On répond aussi à des interviews, parfois pour des sites internet, pour la télévision, la radio, la presse écrite. On a aussi participé à un certain nombre de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux pour vérifier que les choses qui y sont dites sont correctes d'un point de vue de la réalité des choses, que les partis politiques sont présentés de manière honnête, sont présentés de manière impartiale et pas qu'on essaie de favoriser un tel ou un tel, mais au contraire qu'on essaie de vraiment expliquer qui pense quoi ou qui met quoi en avant. Et donc, je dirais ces vidéos, ces interviews, les publications écrites que nous faisons aussi et qu'on peut trouver sur le site www.crisp.be, ou bien un outil comme celui que nous avons sur le site du CRISP et qu'on peut trouver sur le site vocabulairepolitique.be, c'est un outil où vous allez pouvoir trouver des explications sur ce qu'est la casse de tête, sur ce qu'est le vote et quelle a été un peu l'histoire du droit de vote, sur la présence des suppléants sur les listes, ou bien les listes des électeurs, ou bien que fait la région Wallonne, que fait la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Donc sur ce site vocabulaire politique, vous allez pouvoir trouver toute une série d'infos avec une définition très courte, hein, 2 lignes, et puis une définition plus développée si vous voulez lire plus longuement et avoir plus d'informations. Donc je crois que des outils, il y en a. Et j'observe, notamment, c'est peut-être un des effets positifs de l'abaissement à 16 ans du droit de vote aux élections européennes, j'observe qu'il y a de plus en plus d'initiatives. J'ai déjà mentionné un fort jeune, plusieurs initiatives, pas seulement cette émission-ci. J'ai mentionné les chaînes de radio, de télé, la presse écrite aussi. Essaie vraiment de se mettre au niveau des jeunes pour essayer de donner une information aux jeunes qui soit vraiment abordable, qui soit correcte, qui soit fiable et qui puisse leur permettre de vraiment faire leur choix en toute connaissance de cause. Il y a aussi les tests électoraux. Vous pouvez remplir un certain nombre de répondre à un certain nombre de questions et à la fin, on va vous dire, bah voilà, vous, vu votre profil, vu ce que vous avez répondu, vous êtes plus proche de tel parti à autant de pourcents, de tel parti à autant de pourcents, de tel parti à autant de pourcents. Bah, ce parti-là, pas beaucoup, mais quand même à X pourcents, etc. Et donc, ce sont vraiment des outils qui existent, qui sont de plus en plus facilement accessibles, hein, avec un smartphone, et qui veulent vraiment permettre à chacun et à chacune de s'impliquer, toujours avec cette idée, chaque voix compte.
Alors justement, vous avez donné quelques petits exemples ici, mais quelle est l'importance de l'éducation électorale dans la lutte contre la désinformation? Et alors, pour poursuivre sur cette même question, comment les médias peuvent-ils contribuer à une participation électorale éclairée?
Bah, pour les médias, je crois qu'il y a un peu ce que je viens d'évoquer. Et les médias, c'est devenu beaucoup de choses. Ce sont aussi les réseaux sociaux, hein, qui sont en quelque sorte des médias. Mais évidemment, qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Et donc, je pense qu'il faut rester attentif, il faut faire preuve aussi d'esprit critique, voir quelle est la source qui nous propose quelque chose, qui vous parle. Ça peut être un jeune qui vous parle, ok, mais s'il vous parle pour un parti, au nom d'un parti, bah, c'est pas parce qu'il est jeune que ses idées sont nécessairement meilleures. Il faut aussi se dire, bah, est-ce que je suis d'accord avec les idées qui me sont avancées, et que ce soit avancé par quelqu'un de jeune ou par quelqu'un de plus âgé, d'ailleurs. Et puis, évidemment, bah, y a aussi le rôle de l'école qu'il faut mentionner. Et je pense que l'école, notamment avec les cours de philosophie et de citoyenneté que l'on rencontre, dans certaines classes, sont des moments privilégiés pour apprendre la démocratie, déjà comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a des moments démocratiques dans une école. On sait qu'il y a des rôles parfois de délégués de classe, d'élections, de rencontres, qui sont un peu les porte-voix. Donc ce sont des réflexions démocratiques que l'on peut mettre en place au niveau de l'école. Ce n'est pas le cas dans toutes les classes, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, mais ça existe. Et puis aussi, en termes de contenu, je pense qu'en 4e, en 5e, en 6e secondaire, quand les jeunes vont avoir 16, 17, 18 ans, l'école a aussi un rôle pour donner des critères, donner des clés de lecture. Donc moi, il y a 3-4 semaines, bah, j'étais devant une classe de jeunes de 4e année, et puis une heure plus tard, devant des rétos, pour justement leur expliquer bah, comment ça va se passer. N'oubliez pas d'emmener votre carte d'identité pour aller voter. Comment est-ce que ça va se faire? Bah, voilà, vous pouvez voter en case de tête, ou bien vous pouvez voter pour un ou plusieurs candidats. Mais attention, vous ne pouvez pas voter pour 2 listes sur le même bulletin de vote, ça ce n'est pas autorisé, des choses comme ça. Et puis évidemment présenter aussi un peu des grands sujets, l'environnement, l'économie, etc. et dire, ben voilà, le MR pense ceci, les engagés pensent cela, écolo ceci, le PS, le PTB, défi, etc. Donc un peu toutes les listes et leur montrer qu'il y a vraiment un éventail assez large. Voilà, ça c'était l'initiative de ces 2 écoles dans lesquelles j'ai été amené à m'exprimer. Bon, c'est vrai qu'on a une petite équipe, hein, on est 9 chercheurs au CRISP, on ne peut pas faire toutes les écoles de Wallonie et de Bruxelles, malheureusement, mais ce sont des démarches qui sont importantes et on n'est pas les seuls à le faire. Et les enseignants, évidemment, et les enseignantes ont un rôle très très important à jouer en la matière, je pense.
Merci beaucoup. Notre émission touche déjà à sa fin. On a dû éliminer quelques pauses musicales, vu la complexité du sujet, et je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses du coup sur les élections, sur leur importance. Et n'oubliez pas que chaque voix compte et que votre participation est essentielle pour façonner l'avenir de notre société démocratique. Parce qu'on le voit bien dans l'actualité, les démocraties ont tendance à être en danger, donc il faut continuer à la préserver chez nous. Donc merci à nos invités d'être revenus aujourd'hui. Merci à Ryan d'avoir co-animé avec moi. Merci à Jean d'avoir fait une grande partie de l'émission.
Merci aussi.
Merci pour toutes ces informations. Alors, si tu veux faire partie de notre équipe de jeunes radioactifs, je le rappelle, tu peux nous contacter au 02 421 71 30. C'était la bande des jeunes radioactifs. On se donne rendez-vous le 22 mai pour une nouvelle émission. On se quitte sur une phrase de Carrie Chapman Catt, qui était une féministe américaine. Le vote est le symbole le plus puissant de la démocratie. Salut, à bientôt sur Radio Panique.